dit, le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se part. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Salut. Il est 19h02 et vous êtes bien sûr Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et c'est l'heure du Canu Info. Alors aujourd'hui à l'international, on va aller voir du côté de la Grèce ce qui se passe pour l'anniversaire de la mort d'Alexis Grigoropoulos. On parlera ensuite de la stérilisation forcée de femmes indigènes au Canada. Puis on parlera du fort décrié pacte de Marrakech. Avant de partir du côté des écolos britanniques et de la Chine qui refusent les déchets européens. Au national, on va parler bien entendu de la mobilisation des gilets jaunes, du rôle de la CGT dans celle-ci. Ensuite, on ira du côté de la frontière pour parler de l'ouverture d'un nouveau squat à Oux. Et on verra un peu une info sur le traitement raciste de la justice et de la police des migrants avec 2 exemples fort significatifs. Et enfin, au local, on parlera de nouveau des Gilets jaunes qui nous ont beaucoup occupés et de Colomb qui a sauvé sa belle fête des Lumières. On est bien content, l'ordre est bien gardé. Et tout de suite, on parle de la Grèce.
Et on parle de la Grèce, ouais, et on finira d'ailleurs par un petit dossier, non?
Oui, pardon, hein, j'oublie. Ouais. Oui, on accueille des lycéennes qui vont venir nous parler de la mobilisation lycéenne qui a été assez importante à Lyon, mais aussi dans toute la France la semaine dernière.
Voilà, donc on commence effectivement à l'international par l'anniversaire d'Alexis, de la mort plutôt, d'Alexis Grigoropoulos, donc, ça fait 10 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Eh bien, un adolescent, donc Alexis Grigoropoulos, a été tué vers 21h à Athènes par une balle tirée par un flic dans le quartier d'Exarchia pendant une manifestation qui tournait à l'émeute. Alors, à l'époque, un petit retour en arrière, c'est le parti Nouvelle Démocratie qui est au pouvoir, donc c'est la droite réactionnaire, en alternance avec le PASOK, donc ce sont les sociodémocrates grecs. Ils alternent depuis le début de la Troisième République, donc à partir de 1974, donc la prise du pouvoir législative en Grèce. Les raisons de la colère à l'époque, elles sont très claires. Et à cette époque, on le rappelle, on est juste après le début de la crise de 2008, mais on est avant les politiques d'austérité drastiques qui vont affamer le peuple grec et qui vont être appliquées et par les sociodémocrates, puis par Tsipras et Syriza, hein, vous savez, les copains de Mélenchon, comme de bons valets de la Troïka, donc de la BCE, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Donc à cette époque, juste avant donc l'application de ces politiques d'austérité, la corruption des deux principaux partis au pouvoir est massive, hein, notamment et principalement par du détournement d'argent public, l'appauvrissement des classes populaires et de pire en pire d'année en année, notamment les retraités et les jeunes. Les jeunes parlent d'une génération 700 euros. Vous imaginez, travailler à temps plein avec 700 euros, à cette époque en Grèce, hein, les prix sont à peu près les mêmes qu'en France. Le taux de chômage est en constante augmentation, notamment chez les jeunes diplômés. Dans la mobilisation, la communauté étudiante, en tout cas beaucoup d'universités et les lycéens sont très présents pendant les émeutes. Et notamment puisque les universités sont touchées et impactées par la mise en compétition des universités, la hausse des frais d'inscription, entre autres choses. Et également, hein, ce qu'il y a dans les revendications, c'est le refus des violences policières qui sont de plus en plus nombreuses et le refus du patrimoine de l'Église orthodoxe, hein, qui ne paye aucune taxe. Alors à ce moment, la Grèce s'embrase. Les étudiants, les lycéens, les proles, les travailleurs pauvres et les gens au chômage savent bien qu'ils vont en prendre plein la gueule avec les conséquences de la crise économique. La police réprime et tire, Alexis meurt et ça provoque donc au moins un mois d'émeute et des années de résistance, hein, jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi ce 6 décembre 2018, en Grèce, il y avait un appel à venir, comme tous les ans, mais un peu plus puisque là c'était les 10 ans. Il y a donc eu plusieurs milliers de personnes à Athènes et à Thessalonique dans l'après-midi. Des cortèges plutôt calmes au début et plus offensifs par la suite. En début de soirée à Athènes, par exemple, plusieurs milliers de personnes cagoulées ont manifesté dans le centre-ville pour terminer à Exarchia, où plusieurs barricades ont été érigées, suivies de plusieurs affrontements. Il y a eu donc à ce moment-là au moins une vingtaine d'interpellations et plusieurs violences policières. À Thessalonique, le jeudi soir, nouvelle manifestation, beaucoup d'affrontements, notamment beaucoup de cocktails Molotov qui ont été jetés sur les flics, probablement en mémoire, hein, d'Alexis Grigoropoulos, et beaucoup d'attaques sur les métros et les vitrines avec des cibles bien choisies. Ce qu'il faut retenir, c'est que la résistance au rouleau compresseur capitaliste et la répression, eh bien, cette résistance n'est pas terminée en Grèce. Et donc on espère qu'au contraire elle va prendre de l'ampleur, hein, et rien lâcher par rapport aux applications des directives de la Troïka.
Et on va maintenant du côté du Canada pour parler des stérilisations forcées.
Oui, alors on va parler de stérilisation forcée actuellement, de nos jours, mais la stérilisation sélective et forcée, c'est quelque chose qui a longtemps existé au Canada. Dans les faits, dès le début des années 1900, des physiciens défendaient l'idée d'une sélection des populations les plus fortes, entre guillemets les plus fortes, et une stérilisation des personnes dites faibles d'esprit ou présentant des défauts physiques. Un peu plus tard, certains États du Canada sont allés jusqu'à adopter des lois encadrant et obligeant à la stérilisation certaines personnes, donc. Et l'État où cela a été le plus efficace et où la loi est restée valide le plus longtemps, c'est dans l'État d'Alberta, puisque la loi est entrée en vigueur en 1928. Sous une première forme qui encourageait et offrait la stérilisation à des personnes consentantes, mais quand même sélectionnées. Puis cette loi a été modifiée, puisque trop peu de personnes devaient en être convaincues, et modifiée donc pour devenir obligatoire pour les personnes mentalement déficientes. Et il se trouve que les aborigènes, les femmes les plus pauvres et les prostituées ont été artificiellement classées déficientes mentales, soit de façon arbitraire, soit en passant par des tests de QI qui, on le sait aujourd'hui, représentent plus un niveau scolaire ou en tout cas un niveau d'adaptation à la scolarité que vraiment un niveau d'intelligence. Résultat, alors que dans l'État d'Alberta, il n'y avait que 6% d'aborigènes, les aborigènes représentaient 25% des personnes stérilisées. Ce n'est qu'en 1972 que cette loi a été abolie. Abolie donc, et aujourd'hui pourtant, 60 femmes indigènes portent plainte pour des stérilisations forcées qu'elles ont subies, les plus récentes datant de 2017. Il existe toutes sortes de scénarios, comme celles qui racontent qu'elles ont été stérilisées sans même en être informées, d'autres qui venaient d'accoucher et à qui on refusait de donner leur enfant si elles n'acceptaient pas d'être stérilisées, quand on ne les faisait pas signer, alors même qu'elles étaient en train d'accoucher. Elles racontent aussi les informations mensongères, c'est-à-dire que certaines ont accepté la stérilisation sous la pression, après qu'on leur ait assuré maintes fois que la ligature des trompes était un procédé entièrement réversible, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Bref, ces femmes sont la preuve qu'il y a aujourd'hui des restes de la politique coloniale qui était la réalité au Canada. C'est donc quelque chose à dénoncer parce que c'est quand même agaçant cette habitude qu'on peut avoir quand on est médecin et qu'on croit être légitime pour imposer un choix sur le corps des autres, que ce soit en imposant la stérilisation ou en la refusant quand une femme souhaite le faire. En France, par exemple, ça peut être la croix et la bannière pour trouver quelqu'un qui accepte de procéder à l'opération, surtout si on est trop jeune pour eux.
Et oui, les femmes n'ont jamais vraiment eu à décider de la manière dont elles pouvaient gérer leur contraception. Et maintenant, on va parler du pacte de Marrakech. Ça fait quelques semaines qu'on en entend causer de tous les côtés. On a même vu ce week-end dans la manif lyonnaise des Gilets jaunes, une banderole, Marrakech, c'est non.
C'était pas les copains.
Non, c'était visiblement pas les copains. Alors, face au lever de boucliers nauséabondes des nationalistes, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir quelques billes pour contrecarrer un petit peu la propagande fasciste. Alors, mise sous tutelle onusienne, grand remplacement, droit illimité à la migration, c'est pas les conneries qui manquent pour décrire ce pacte, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça ? Alors, en vrai, pas grand-chose, hein. Le pacte de Marrakech, c'est en fait le résultat d'un processus qui a été ouvert en décembre 2016 par la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et qui prévoyait l'adoption de deux pactes mondiaux en 2018. Le premier pour les réfugiés qui est toujours en cours de rédaction et l'autre pour la migration en général, donc ce fameux pacte de Marrakech. Alors, il s'agit, je vais citer le texte, d'un pacte mondial qui établit un cadre de coopération juridiquement non contraignant. Le pacte mondial réaffirme le droit souverain des États de définir leur politique migratoire nationale et leur droit de gérer l'immigration relevant de leurs compétences dans le respect du droit international. Bref, rien donc qui ne mette à mal la sacro-sainte souveraineté que les nationalistes agitent comme un épouvantail bien mal fagoté. Ce texte, pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, entend en réalité fixer un cadre pour maîtriser l'immigration à travers différents objectifs. Alors parmi ces objectifs, on trouve un meilleur contrôle des frontières, la lutte contre le passeur, mais aussi le travail clandestin, une meilleure organisation des retours, etc. etc. Rien de révolutionnaire. Des textes, des propositions toujours dans la droite ligne des politiques migratoires de fermeture des frontières massives. Donc en vrai, cette levée de bouclier, elle est purement démagogique. Elle ne trouve aucun fondement dans ce texte. Alors, il y a quelques références aux droits humains des migrants qui sont effectivement souvent bafoués. Ces références donc, qui sont dans le texte n'ont aucun pouvoir coercitif pour les États qui pourront continuer tranquillement d'humilier, d'enfermer, d'expulser et de plonger dans la misère les personnes qui tentent de s'installer chez eux. À ce stade, 9 pays se sont déjà retirés du processus. L'Autriche, l'Australie, le Chili, la République tchèque, la République dominicaine, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie. Et 7 ont souhaité plus de consultations internes, donc la Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, l'Israël, bien entendu l'Italie, la Slovénie et la Suisse. Alors pour la Belgique, il faut quand même savoir que hier, ce texte a fait tomber le gouvernement puisque les ministres nationalistes de la coalition ont décidé de démissionner. Donc la coalition ne tient plus. Les nationalismes européens ont de beaux jours devant eux. Quant à nous, il va falloir qu'on démine le terrain et dire que le pacte de Marrakech, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est plus de frontières du tout.
Allez.
Et on passe, on passe à la Grande-Bretagne, puisque je fais ma transition. À Londres, depuis le 17 novembre, et ça vous rappellera peut-être une date, un mouvement a émergé, un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, et qui pourrait être assimilé à la Marche pour le Climat en France, d'autant plus qu'ils sont tout à fait non-violents et pas très portés sur des revendications de justice, de remise en question du pouvoir ou du racisme. Le fait est que le mouvement qui se réclame de la désobéissance physique, civile, pardon, pas vraiment physique, a beaucoup d'ampleur. Le 17 novembre, ils étaient des milliers à bloquer 5 ponts dans le centre-ville de Londres, provoquant 82 arrestations. Et le 24 novembre, ce sont les accès au Parlement qui sont bloqués. Une femme aurait même collé ses mains à la superglue sur une barrière de Buckingham Palace pour ne pas pouvoir être évacuée facilement. Bon, ils ont globalement deux revendications, que leur pays passe à zéro émission de carbone en 2025 et qu'une assemblée de citoyens soit créée pour superviser les actions du gouvernement. C'est pas une si mauvaise idée d'avoir une assemblée de gens qui pour surveiller le gouvernement, mais ils sont un peu gentils de manière générale, les écolos, de ne penser finalement qu'à eux. Parce qu'ils ont peur de tomber malade à cause de la pollution ou qu'ils veulent des enfants en bonne santé. Et il y a finalement très peu de gens, même s'il y en a, qui s'inquiètent du fait que c'est pas en Europe que le changement climatique touchera le plus vite la vie des gens. Et pas de remise en question de la gestion de nos déchets à nous, par exemple, et du fait qu'on paie, par exemple, pour les envoyer dans d'autres pays, comme en Chine, par exemple. Parce que c'est aussi une réalité que les déchets que certains d'entre vous trient religieusement avec une bonne conscience d'écolo, eh ben ces déchets ne sont recyclés que s'ils sont achetés par une entreprise qui y trouve un intérêt. Sinon, ils sont tout simplement à nouveau mélangés dans une déchetterie. Ils sont souvent achetés pour être revendus à la Chine, pas cher du tout, et ce sont donc des gens faisant partie de la frange la plus pauvre de la population en Chine qui recyclent vos déchets et s'intoxiquent en le faisant. Et puis la Chine a annoncé son intention de ne plus accueillir les déchets étrangers. Si c'est le cas, on va devoir garder nos merdes et se débrouiller comme ça. Pas de vrai changement s'il n'y a pas de vrai changement de système, car comme le scandait samedi une toute petite partie de la manif pour le climat à Lyon, les riches polluent, les pauvres subissent, c'est le système qu'il faut changer.
Et oui, et pour introduire le passage à l'actualité nationale, on va passer la Parisienne libérée, ultime hyper totale gauche.
Ah. Ça, c'était notre générique.
Pas tout à fait,
on recommence.
On recommence.
La seule se veut qui déclare la guerre au caténaire. Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT. Ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Ça fait des mois qu'on te suit, toi et ton groupuscule. On sait tout sur ta vie et celle de ta cellule. Tu t'intéresses au train, tu flânes près des chemins de fer. Si j'en crois les témoins, t'as même pris les horaires. Dans ta bibliothèque, paraît qu'il y a des bouquins. Et d'après notre enquête, t'en as même lu certains. UHT, ultime hyper total gauche. À gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Et les choucroutes parties, l'État dans son action sera direct aussi. Détournement de brouette, là tu risques 20 ans, à moins que ça soit perpète, si t'avoues pas maintenant. Le procureur constate qu'il y a dans ton garage des tuteurs à tomates, c'est pour les sabotages. Jardinage, pour toi ça va chauffer sous les navets, la plage. Une bombe atomique demain sera lâchée contre le membre unique de ta communauté. T'étais le premier leader d'un mouvement anarchiste, le seul spéculateur anticapitaliste. Extrême gauche, ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Et si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air, c'est que le vent a soufflé. Oui, si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air et que le vent a soufflé. Qui en veut à la seule ce feu?
Et donc c'était la Parisienne libérée, ultime hyper total gauche. C'est une chanson qu'elle avait écrite en 2008 à la suite de l'affaire Tarnac et de l'arrestation notamment de Julien Coupa, qui a de nouveau été arrêté ce samedi en marge des manifestations Gilets jaunes.
Avant même. Ouais.
Avant. En très en marge. En marge avant. En marge avant.
Parce qu'il avait, je crois, il avait au moins un gilet jaune dans son coffre et une bombe de peinture.
S'il n'en avait pas eu, il aurait probablement également été interpellé, c'est... puisque c'est obligatoire d'avoir un gilet jaune dans sa voiture. Ah oui, nous le rappelons.
D'aller en prison, hein, il suffit.
Du coup, parlons donc de ces fameux gilets jaunes qu'il ne convient pas forcément de mettre dans sa voiture, on ne sait toujours pas.
Bah, bon, ça dépend qui on est, mais toujours est-il que certains les mettent sur eux, en tout cas. Alors, samedi, Excellent. Samedi, donc, encore une bien belle journée, somme toute. Un gros samedi, hein, avec une assez forte mobilisation. Et par contre, une énorme répression. On augmente de samedi en termes répressifs. Alors, à Paris, ça devient complètement délirant. Hein. Alors,
il faut
pas s'y habituer du tout. Il faut continuer à clamer haut et fort que c'est du grand n'importe quoi. Alors, dans toute la France, bon, vous l'avez forcément entendu, il y avait au moins 80 000 keufs mobilisés, dont au moins 8 000 à Paris. Alors pour Paris, ils étaient appuyés, et ça c'est historique, hein, par 14 VBRG, véhicules blindés à roues de la gendarmerie, déployés donc pour la première fois de leur histoire dans la capitale. Et oui, alors cette image a probablement fait un peu le tour des médias internationaux. Des blindés à Paris, c'est histoire de nous faire savoir qu'ils en ont encore un peu sous le coude, ce qui n'a pas empêché qu'ils soient quand même relativement débordés à plusieurs moments de la journée, et c'est tant mieux. Alors, les gros moyens ont été employés en prévention. Alors, outre un certain Julien Coupet qui a été interpellé pour avoir un gilet jaune et une bombe de peinture dans son coffre, eh bien, les flics ont eux-mêmes bloqué un certain nombre d'axes routiers menant à Paris, comme par exemple l'A6, hein, qui était bloquée entre Lyon et Mâcon. Merci à eux de nous bloquer des axes routiers. Et surtout, les grands moyens en termes de prévention, c'est donc d'interpeller les gens avant même qu'ils n'arrivent à la manifestation, par des fouilles de véhicules, d'individus, de sacs à dos. Et dès qu'ils trouvent la moindre petite référence à un manifestant, eh bien, ils interpellent. Alors, dès 7h52, donc on est quand même relativement tôt le matin, 34 personnes étaient déjà interpellées. À 8h47, 278. À 10h24, 354, dont 127 en garde à vue. Je ne vais pas vous faire tout le déroulé de la journée, ce serait trop long, mais on voit qu'il y avait la volonté, évidemment, d'empêcher un certain nombre de personnes d'atteindre la capitale. Alors, dans le courant de la journée à Paris, hein, beaucoup de RER et de métro ont été fermés. Les grandes allées parisiennes ont été complètement vidées. Les magasins ont été fermés. Le périphérique a été bloqué à au moins deux reprises dans la matinée. Dès 11h, les premières charges policières, lacrymo et autres joyeuseries de type grenades de désencerclement avec de la TNT à l'intérieur sont envoyées. Et les premières interpellations non préventives également, hein, arrivent. Toute l'après-midi, les affrontements sont réguliers à différents endroits avec des cibles bien particulières qui sont attaquées, comme par exemple la Chambre du commerce et de l'industrie à Paris. Alors, bon, je passe les détails de la journée. On recense à la fin de la soirée 1150 personnes interpellées à Paris et plus de 800 gardes à vue. À l'échelle nationale, on recense plus de 1400 interpellations. Plusieurs centaines de blessés, dont certains graves. On en avait déjà fait un petit recensement la semaine dernière. Aujourd'hui, par exemple, donc samedi, à Bordeaux, une nouvelle main a été arrachée à la suite d'un tir de grenade de désencerclement. Donc, ils continuent à utiliser massivement ces armes qui mutilent et qui peuvent tuer. Dans plusieurs grandes villes et moyennes villes de France, la mobilisation n'a pas diminué, voire parfois, elle a même augmenté. Alors, les grandes villes que l'on peut citer, c'est Bordeaux, Toulouse, Marseille et même Lyon, Nantes également, hein, où la mobilisation a été forte avec souvent des affrontements, beaucoup de violences policières et d'assez nombreuses interpellations par dizaines, hein, dans ces villes-là, mais aussi des villes moyennes où la mobilisation a encore été très importante et avec beaucoup de confrontations entre les forces en présence populaire et les forces de l'ordre, comme Narbonne, Saint-Étienne, le Puy-en-Velay, une fois n'est pas coutume, Grenoble, Caen, j'en passe, hein, beaucoup de scènes d'affrontements dans ces villes-là. Dans beaucoup d'autres villes, il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre, mais il y a eu une forte présence des gilets jaunes ou des gilets non jaunes, des gens qui viennent quand même aux manifestations de plus en plus, sans forcément mettre de gilets jaunes d'ailleurs. Plusieurs autoroutes ont été bloquées dans la journée, donc comme la 89, la 7, par les gens mobilisés, pas par les flics, hein. Donc, en résumé, la colère populaire ne désemplit pas, et c'est tant mieux. Par endroits, et de plus en plus, on voit apparaître des revendications clairement anticapitalistes, et ça, ça fait plaisir. Par contre, on n'oublie pas, et on n'oublie toujours pas la composante d'extrême droite de ce mouvement, qui est encore bien en force par endroits, notamment dans certaines villes. On va le voir pour Lyon, mais aussi à Paris, hein, et dans certaines villes de province. Mais on va continuer à suivre non seulement de près ce qui s'y passe, mais on va continuer à appeler à rejoindre cette mobilisation, pas laisser la place à l'extrême droite et laisser la place à des revendications de plus en plus anticapitalistes.
Oui, mais alors, il va pas falloir compter pour les syndicats pour faire ce taf-là. On voulait justement revenir un peu sur le rôle pacificateur des syndicats et particulièrement l'attitude de liquidateur, de liquidatrice de la CGT. Alors, si certains n'ont absolument aucun espoir dans le syndicalisme ouvrier, d'autres, comme moi, continuent de penser que les organisations syndicales peuvent avoir un rôle décisif dans les moments révolutionnaires. Et ben, en tout cas, pas de miracle, la CGT est toujours bel et bien à l'arrière-garde du mouvement et joue fort bien son rôle d'apaisement du conflit social. Jeudi, l'organisation syndicale signait ainsi un appel avec d'autres organisations. Alors, rien que la liste des signataires est une offense pour les travailleuses et travailleurs en lutte. Alors, je cite, la CFDT, Force ouvrière, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA et la FSU. La CGT a donc bien choisi le camp de la négociation.
Tous les traîtres.
De la réforme et des couteaux dans le dos. Alors, je cite le passage le plus symptomatique de ce communiqué et qui illustre tout à fait la déconnexion de l'organisation avec le mouvement réel. Le dialogue et l'écoute doivent retrouver leur place dans notre pays. C'est pourquoi nos organisations dénoncent toute forme de violence dans l'expression des revendications. Merci Martinez. Dans Le Monde de vendredi, Philippe Martinez, le chef de la Confédération, s'est longuement exprimé. Alors il nous dit, je le cite, « Les ronds-points, c'est bien, mais les grèves en semaine, il faut les faire, c'est ça que l'on construit. » Alors pour les faire, encore faudrait-il que des organisations syndicales de classe puissent appuyer les travailleurs dans ces grèves. Alors on se passe finalement pas trop mal de eux, mais je rappelle que pour faire grève, normalement, il faut avoir déposé un préavis et ça, c'est les syndicats qui le font. Merci Philippe. Il déplore également le manque de représentation de la CGT, mais on se demande qui voudrait bien aller dans un syndicat bureaucratique, sclérosé et qui n'a définitivement rien à faire des retours de sa base, qui, on le sait, sont déjà nombreux concernant la gestion de ce mouvement. Alors Martinez s'inquiète, je le cite encore, de l'escalade de la violence qui est d'abord organisée par des groupuscules que nous voyons depuis 3 ans. Le ministre de l'Intérieur et le préfet de la police, ont des responsabilités. Alors toujours la même rengaine, la CGT reprend le discours du gouvernement et des médias pour légitimer la répression. Merci à ceux qui devraient être nos alliés de classe. On apprend dans cette interview que la CGT va décliner l'invitation. Donc ça, c'est une interview qui est sortie vendredi. Donc on y apprend que la CGT décline l'invitation du gouvernement qui devait être vendredi auprès de toutes les organisations syndicales. Je cite encore Martinez, la ministre du Travail devait recevoir vendredi des organisations patronales et syndicales sur la mise en œuvre des annonces du Premier ministre, mais la CGT a décidé de ne pas y aller. Ces décisions ne sont déjà plus valables, on a un gouvernement qui flotte. Ok, bon, pas trop mal, mais aujourd'hui, soudain, virage à 180 degrés, la CGT confirme sa présence au palais présidentiel avec les 5 syndicats représentatifs, toujours les mêmes signataires de communiqué, mais aussi 3 organisations patronales, le MEDEF, la CPME et l'UDP. Alors on salue Solidaires, qui est le seul syndicat qui a refusé de s'y rendre en rappelant dans un communiqué que dans cette période, le rôle des organisations syndicales n'est pas de discuter avec le président, alors que des centaines de personnes sont toujours en détention. Alors, la CGT, quant à elle, ne comprend visiblement absolument rien à la situation, alors que en première ligne de ces affrontements, on trouve tout ce que le pays compte de gens humiliés, déclassés, précarisés, et qu'une immense majorité des Français, des travailleurs français, se sentent solidaires de ce mouvement. La CGT, elle reste sourde à ce mouvement, qui est né d'abord parce que les vieilles méthodes du syndicalisme, des journées d'action isolées et éloignées dans le temps, le recours aux négociations et toutes ces défaites ont conduit justement au rejet grandissant des syndicats que déplore Martinez. Ce qui discrédite en réalité le plus le mouvement social, c'est précisément l'attitude des directions syndicales face à une situation sociale explosive dont elles sont incapables de prendre la mesure. On espère que l'histoire décrira cette période comme une honte pour le syndicat ouvrier en tête desquels la CGT. Alors on salue quand même tous les camarades syndiqués qui tentent de se battre contre ce monstre froid qui est devenu la CGT. On salue aussi toutes les sections qui appellent à une mobilisation malgré tout, comme l'UDCGT 71 par exemple, qui appelle à la grève illimitée dès le 14 novembre. Mais on n'oublie pas que la CGT est pas trop gilet jaune, mais jaune tout court.
Très bon, très bon, très bon. Alors on va passer donc...
Merci pour tes petits commentaires.
Bah oui, non mais j'ai trouvé que ce jeu de mots était somme toute plutôt bien amené. Alors, On va passer ensuite à ce qui s'est passé du côté de la frontière franco-italienne. Donc on est certes dans le point national, mais on se permet de le faire à ce moment-là puisqu'il y avait, il y avait du monde de la frontière qui était en tout cas actif dans cette ouverture d'un nouveau squat à Oulx. Donc il y a une ville un peu plus éloignée que Clavière de la frontière française, proche de Briançon, mais c'était nécessaire pour notamment en vue de l'hiver qui arrive, hein. Il faut que les migrants qui arrivent à la frontière italienne pour passer en France puissent avoir un lieu d'accueil. Je vous lis donc leur communiqué. Un nouveau refuge autogéré s'ouvre à la frontière italienne. Hein, c'était ce dimanche. Aujourd'hui a été ouverte la Casa Cantoniera à Oulx, un bâtiment vide et inutilisé depuis des décennies. À partir d'aujourd'hui, il s'agit de lui redonner vie, contre les frontières et le dispositif qui les soutient et les détermine. Contre le décret Salvini et sa politique de répression et de guerre aux pauvres, pour un monde où tous et toutes puissent choisir où et comment vivre. La situation à la frontière continue à empirer. La militarisation est croissante, l'hiver est désormais arrivé. Le système de contrôle et de gestion toujours plus fort vient s'imposer sur tous et toutes celles et ceux qui, sans les bons papiers, continuent à vouloir traverser cette ligne imaginaire appelée frontière. Le refuge autogéré chez Jésus, local occupé sous l'église de Clavière, a été expulsé depuis presque 2 mois. Depuis ce jour, les personnes qui se perdent et risquent leur vie et leurs membres en montagne sont toujours plus nombreuses, aussi car elles n'ont ni les informations ni l'habillement adapté pour affronter le voyage, sans espace et sans temps pour pouvoir s'organiser, se reposer et repartir. Ce lieu veut également être cela, un refuge autogéré pour celles et ceux qui sont de passage et qui ont besoin de plus de temps pour s'organiser que les quelques heures nocturnes offertes par les Salésiens. Un lieu pour pouvoir s'organiser contre les frontières sur ces montagnes ainsi que contre celles en ville et le système qui leur est relié. Le décret Salvini est une déclaration de guerre aux pauvres, une guerre aux immigrés, toujours plus exploitables sous la constante menace des papiers, centres de rétention ou déportation. À tous et toutes celles et ceux qui cherchent par tous les moyens à s'opposer au système de sélection, contrôle et exclusion qui sévit dans cette société, aux indésirables en général qui sont jetés en dehors des centres habités, toujours plus réprimés, contrôlés, exploités. Organisons-nous. Et donc, au moment de l'ouverture, hein, ils appelaient à un repas partagé musical. Toutes les personnes qui souhaitaient passer pour soutenir, discuter, y étaient invitées, et c'est toujours le cas. Il y a besoin de matériel, matelas, couverture, vêtements chauds, chaussures de rando, chaussettes, gants, chapeaux, poils, tapis, nourriture, etc. Vous pouvez aussi déposer tout ça chez Marcel du côté de Briançon pour les amener là-bas.
Et pour continuer sur la thématique des migrations, on voulait parler de deux bons gros racistes qui œuvrent, plus vraiment en toute impunité, mais dans la justice et la police. Alors le premier était juge administratif à Lyon, avant de devenir président honoraire à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et alors ce monsieur, depuis 2012... Il tenait un compte Twitter avec des interventions bien dégueulasses. Alors, il avait par exemple la photo de Poutine avec Trump et cette une photo de Poutine avec Trump. On l'a vu tweeter à propos par exemple de l'avocat du rappeur Kaaris. T'as vu la gueule islamiste du baveux. Il dit à propos des déboutés du droit d'asile, 90% nous engorgent inutilement. Quant aux bandes ethniques qui pillent le centre de Lyon, c'est le résultat d'une immigration maghrébine et subsaharienne à majorité musulmane incontrôlée depuis 40 ans de lâcheté. La solution, un ou une Salvini, Orban ou Bolsonaro, vite ça urge. À propos de Bolsonaro, il dit aussi, c'est sûr que pour les homos et les bobos, c'est un sale temps. Pour nous, c'est l'espoir qui se lève contre ces salopards trotskistes.
Alors, il est fin politiquement, c'est incroyable.
Ce sauvagnier a donc été convoqué par la présidente de la CNDA qui l'a démissionné. Quoi. Il a démissionné quelques heures après. Mais bon, ça veut dire quand même que ce mec avait a pu sévir à la CNDA qui est censée donc statuer sur les demandes d'asile en second recours. Et en toute impunité, tout en tweetant des trucs bien, bien faf. Donc c'est la moindre des choses, hein, qu'il ait été démissionné, mais on sait bien que les tribunaux regorgent de ce genre de connards. Alors, pour le deuxième personnage fort sympathique qu'on a pu voir à l'œuvre cette semaine, alors cette fois, c'est un flic de la PAF de Beauvais qui, le 14 novembre, alors qu'un Guinéen avait été interpellé et placé en rétention administrative, donc à la PAF au commissariat de Beauvais, le policier aurait forcé ce demandeur d'asile de se mettre à genoux et de lécher les chaussures du policier. Voilà, c'est donc un autre policier qui a alerté la hiérarchie a priori de ce comportement, c'est aussi la moindre des choses.
Oui, ça se fait pas trop pourtant entre policiers.
Hein. Ouais, mais là pareil, on n'est pas mécontent qu'il l'ait fait quand même. Ouais. Alors à sa première audition, il a d'abord nié les faits, puis il est revenu, il a d'abord avoué les faits, puis il est revenu sur ses aveux a posteriori. Il y a donc à la fois une enquête de la police des polices, mais aussi une enquête judiciaire concernant ces faits-là. Et on souhaite toujours bon courage à nos potes demandeurs d'asile et
sans papiers
qui se font traiter toujours autant comme des merdes, ne l'oublions pas en ces périodes de très très jeunes. Et en parlant de police, on écoute tout de suite Georgia Smith, Blue Lights. C'est une chanson à propos des violences policières.
Even the fuss, but the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, "Love, blood, I'm sorry, cause I know you got my back." He was running, I couldn't think, I had to get out of there. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one.
Toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi et on continue là donc avec un sujet au local sur les gilets jaunes toujours.
Les gilets jaunes, alors, oui, on en a parlé à tous les niveaux. On propose un petit compte rendu de samedi dernier et de la manifestation des gilets jaunes. Le matin, ils étaient quelques-uns à avoir rejoint la manif pour le climat, mais ils n'étaient pas si nombreux. Il faut dire qu'ils sont bien pris de haut par la plupart des écolos et que ça leur donne apparemment pas trop envie de s'y mélanger. Et ils avaient donc leur propre manif l'après-midi. Il y a eu un petit flou sur l'heure et le lieu de départ de la manif, et les manifestants étaient donc dès le début dispersés à plusieurs endroits de Lyon. Mais un premier groupe de personnes assez consistant s'est agrégé place Raspail, où la police était présente pour les empêcher de rejoindre la place Bellecour, évidemment, puisqu'il devait y avoir la fête de la lumière le soir même, quelques heures plus tard.
Et il y a eu la fête des lumières, d'ailleurs.
Là, tu nous spoiles un petit peu, mais bon, la fête des lumières a bien eu lieu. Donc, premier gazage, grosse séance de tabassage en règle. Malgré ça, plusieurs centaines de personnes réussissent à traverser le pont et rejoignent la place Bellecour. Les personnes restées place Raspail sont nassées un certain temps, tandis que le reste de la manifestation se partage entre ceux qui occupent la place Bellecour et ceux qui prennent la rue de la République en direction de l'hôtel de ville. La manif qui remonte rue de la République arrive à l'hôtel de ville sans trop d'encombre. Et une fois bien agrégée entre l'hôtel de ville et l'opéra, un petit groupe de personnes s'approche des grilles, les secoue un peu et les grilles s'ouvrent presque immédiatement à la surprise générale. Hésitation des manifestants, sûrement trop surpris. Quelques personnes entrent mais reculent immédiatement lorsque les policiers municipaux sortent du bâtiment. On reste encore un moment devant l'hôtel de ville. Devant l'arrivée massive de camions CRS, certains s'agenouillent les mains derrière la tête en référence aux lycéens, arrêtés de façon effrayante à Mantes-la-Jolie. Puis une salve de lacrymogène a renvoyé les manifestants dans la rue de la République où s'en est suivi un jeu de chassés-croisés assaisonné de lacrymogène. Puisque pendant presque une heure, les manifestants ont d'abord essayé de rejoindre la place Bellecour qui avait été fermée, puis ont fui et retrouvé les flics dans les rues de la République et les rues adjacentes. Tout ça sous des tonnes de lacrymo qui touchaient évidemment sans distinction les touristes et les manifestants. Globalement, une ambiance bizarre, puisque pour les manifestants, c'était difficile de savoir qui était là en touriste et qui était là en faisant partie de la manifestation.
À part quand on était sûr que c'était des gros bourges.
Ouais, des fois ça paraissait évident, et puis des fois pas. Du coup, peut-être il s'est passé aussi quelque chose de différent place Bellecour, puisqu'on sait qu'elle a été fermée.
Oui, il y avait aussi pas mal de monde sur la place Bellecour. De la même manière, les flots de touristes qui arrivaient
aussi étaient nassés place Bellecour
de manière régulière et qui se prenaient bien des gaz.
Gros dispositif policier, il faut le dire. Lyon a été quand même ultra quadrillé, notamment à cause de la fête des Lumières. Et de toute façon, de manière générale, Lyon est quadrillé. On avait parfois deux hélicoptères au-dessus de la tête.
Ouais. Oui, ça a été une grosse mobilisation aussi à Bellecour.
Et donc la place Bellecour a fini par être réouverte. Ça n'a pas dispersé la totalité des manifestants qui sont restés en entrant et sortant de la place Bellecour dans une ambiance très bizarre, puisque toute trace de cette manifestation très mobile qui bougeait entre les rues, entre l'hôtel de ville et la place Bellecour, était presque immédiatement effacée, alors que dans une rue pouvait être gazée. 5 minutes après, plus aucun manifestant, plus aucune odeur de gazage, et justement des touristes qui arrivaient en flot et qui continuaient de vivre leur vie malgré la manifestation.
Juste, on n'oublie pas non plus que parmi les gilets jaunes, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a eu quand même un cortège de FAF, notamment de génération identitaire visiblement, qui ont attaqué, tu l'as aussi dit, mais on le rappelle, à place Raspail des habitants du quartier, et à d'autres moments s'y repéraient des gauchistes également. Donc on n'oublie pas leur présence qui est non négligeable, mais en tout cas en fin de journée, ils n'étaient plus là, ils ont fait leur petite manif tranquille contre le pacte de Marrakech dans le Vieux-Lyon.
On peut peut-être quand même rappeler le nombre d'interpellations que j'ai oublié.
24 interpellations.
Et on a au moins deux blessés qui ont fini à l'hôpital.
Et par contre, Gérard Collomb s'est félicité dans un communiqué d'avoir pu maintenir la fête des Lumières. Je le cite, « Maire de Lyon, je ne pouvais m'y résoudre », donc à annuler. « Plutôt que de répondre positivement aux propositions qui m'étaient faites de l'interrompre, j'ai pris l'initiative de me rendre au cœur des tensions qui, vers 18h, se concentraient sur la place Bellecour. » Pour les apaiser. Alors, on ne l'a pas vu, malheureusement.
Il était dans l'hélico, non ?
Mais il dit, je les ai interpellés.
C'est derrière les caméras, comme d'hab.
Je les ai interpellés en leur signifiant qu'ils ne pouvaient pas gâcher la fête des Lumières, la fête de tous les Lyonnais, leur fête. Et là, le calme est revenu grâce à cette intervention.
Ouais, bon, en tout cas, le calme est revenu, a fini par revenir, ça c'est vrai.
Si ça a pu faire peur à quelques touristes, malgré tout, qui ne reviendront pas l'année prochaine, ça ne nous dérangera pas.
Et du coup, avant de parler de la mobilisation lycéenne fortement réprimée, on écoute Abba l'état policier de Dominique Grange pour se rappeler pourquoi on en a marre de se faire taper sur la gueule.
Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Alors que...
Et oui, c'était Dominique Grange, Abba l'état policier, et c'était parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, beaucoup de la répression aujourd'hui, et notamment celle des lycées, mais on va en parler tout de suite parce que la police déteste toujours tout le monde, visiblement.
Alors, on en a parlé la semaine dernière, déjà assez longuement. Il y a un mouvement lycéen, donc, depuis 10 jours, à l'échelle nationale, dans toutes les grandes villes de France et les moyennes villes. Un certain nombre de lycées, parfois même c'est majoritaire, sont mobilisés contre un certain nombre de réformes. La répression policière est... elle, même beaucoup plus importante vis-à-vis de ces lycéens et contre ces lycéens que d'autres mouvements. Et donc, pour aujourd'hui, eh bien... on a invité, et on les remercie d'être venus, trois lycéennes qui vont se présenter et nous dire de quel établissement, dans quel établissement elles sont. Dans l'ordre, comme vous voulez.
Bah, bonjour, du coup moi je m'appelle Lucille et je viens du lycée Lumière dans le 8e.
Je m'appelle Juliette, je viens aussi du lycée Lumière dans le 8e.
Moi je m'appelle Lee, je viens parler au nom des lycéens André Camier dans le 2e arrondissement.
Ok, alors première question, déjà expliquez-nous les raisons de la colère lycéenne actuelle.
Bah simplement en fait au niveau des lycées on a profité un peu du contexte de ras-le-bol général en fait qu'ont créé les gilets jaunes en France pour encore se mobiliser contre Parcoursup, donc la sélection à la fac qui a déjà frappé l'année dernière et qui a empêché pas mal de terminales d'avoir leur fac et en tout cas pas avant au moins 3 ou 4 mois d'attente. Et également aussi on se mobilise contre la réforme du bac donc qui va tomber sur les secondes de cette année, qui supprime les filières et qui fait passer 22 examens dès la première jusqu'à la terminale, ce qui fait que c'est un redoublement de pression et ce dès la première en fait. Et également on est en soutien aussi à la hausse des prix pour les inscriptions à la fac pour les étudiants étrangers qui est passée donc il me semble de 700 euros à 2 700 euros, ça peut aller jusqu'à 2 700 oui pour les étudiants étrangers qui veulent s'inscrire. Donc ouais on a profité un peu de ce contexte pour se mobiliser face à tout ça et essayer de faire tomber Parcoursup une bonne fois pour toutes.
Ouais, et puis sachant que vous allez être les lycéens et les générations à venir particulièrement touchés par le renforcement des inégalités, hein, des réformes du baccalauréat et de la réforme du lycée, notamment, entre autres choses. Alors, du coup, la semaine dernière, il y a eu une assez forte mobilisation lycéenne à Lyon, comme dans d'autres villes de France. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous savez des lycées mobilisés la semaine dernière et du déroulement un peu de ces mobilisations ?
Du coup, depuis lundi dernier, on se mobilise. On essaie de s'organiser entre lycées, on se soutient entre lycées, puisque c'est important qu'on soit tous entre nous. Si on se fait en lycée séparé, on n'aura aucun impact.
Quels lycées ont été mobilisés la semaine dernière ? Vous savez un peu, vous pouvez en citer quelques-uns ?
Bah, du coup, il y a eu le lycée Lumière et le lycée Récamier qui se sont assemblés ensemble. Et on a aidé aussi la Martinière Montplaisir, Colbert.
La Cassagne aussi.
La Cassagne.
Après, on est, ouais, surtout, on est un groupe ensemble de 4-5 lycées, surtout particulièrement, oui, Lumière, Récamier, Colbert, Martinière, etc. Mais il y a d'autres lycées qui se mobilisent en dehors. Sur Bron, il y a Jean-Paul Sartre. Sur Saint-Priest, il y a Condorcet. On n'est pas les seuls, mais on bouge surtout entre lycées du 2e et du 8e, c'est vrai.
Ouais. Ce qui se tient géographiquement, et il y a aussi un certain nombre de lycées, plutôt de quartiers, disons, périphériques ou de villes un peu périphériques lyonnaises de la métropole. Effectivement, tu as cité Bron, Vénissieux, Villeurbanne, Vaux-en-Velin. Bon, ouais, voilà, ouais. C'est d'ailleurs en partie ces établissements-là un peu relayés à la seconde zone, hein, qui vont être impactés et touchés par cette mobilisation. Alors, comment vous avez vécu la répression policière ? Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu de cette répression, puisqu'elle a été assez conséquente la semaine dernière ?
Oui, bah en fait, c'est simplement que... c'est vrai que du coup, comme j'ai dit, on a donc des revendications qui sont très fortes, qui sont très ciblées, et du coup, ça donne lieu à des manifestations, à une ambiance assez chaude, en fait. Et c'est vrai que du coup, ça engendre parfois des violences qu'on peut pas trop contrôler et qui est attisée par les CRS, qui essaient de nous faire une image de casseurs qui tentent de... qui n'ont pas de revendications précises et qui sont simplement là pour profiter du contexte de révolte générale, en fait. Et c'est vrai que déjà on a été sujet, enfin on a eu énormément d'amis sujets à des arrestations qui n'étaient pas justifiées, en fait, des contrôles d'identité qui n'avaient pas lieu d'être. On a, rien que vendredi, en fait, il y a eu 39 interpellations d'étudiants et lycéens. Il y a eu énormément de gens en garde à vue ces derniers temps
pour des raisons pas forcément valables,
hein. C'est ça.
Alors, sachant que la BAC, notamment, hein, donc cette milice policière, a une fâcheuse tendance à intervenir, on l'a vu à plusieurs reprises cette semaine, sans brassard, ce qui est illégal, hein, et de manière cagoulée. Donc, ils se cachent entièrement le visage et ils interviennent. Et bien souvent, ils tabassent, ils utilisent en tout cas beaucoup de leurs armes lacrymogènes, LBD-40, hein, pour faire peur, intervenir, mutiler et réprimer.
Oui, on rappelle d'ailleurs que ça peut avoir ça peut être déterminant dans le cadre d'un procès qu'un flic ait fait une interpellation sans mettre son brassard, puisque s'il n'est pas identifiable, par exemple une rébellion ou un outrage ne seront pas valides, puisque vous n'aviez pas connaissance de son statut de policier au moment de l'interpellation.
Ça s'appelle un vice de procédure et ça peut permettre de gagner un procès. Donc il faut effectivement faire très attention à ça et à la limite, n'hésitez pas donc à filmer les interpellations, puisque bien souvent les flics ne mettent pas de brassard et ça peut permettre donc ce vice de procédure. Alors, de manière générale, donc vous nous avez dit que vous étiez un petit peu coordonné entre 2-3 lycées. Il y a eu une assemblée générale vendredi à la Bourse du Travail. La Bourse du Travail était pleine. Alors, qui peut nous en parler ?
Du coup, on a regroupé tous les gens qui étaient à la manifestation de vendredi. Donc, il y avait des lycéens, il y avait aussi des profs, des syndicats et des étudiants. Et on a pu parler un peu de tout ce qui s'est passé lors de la manifestation et de comment on allait un peu s'organiser pour cette semaine, du coup.
L'ambiance était comment dans cette assemblée générale ?
Très bonne, très bonne, parce que ouais. Ça a permis de se rendre compte du nombre de lycées différents qu'il y avait à l'AG, et ça a permis de voir, en fait, que ça a conforté les lycéens dans l'idée qu'ils n'étaient vraiment pas tout seuls et qu'on était vraiment solidaires.
Oui, ça a
donné, en fait,
de la motivation à tout le monde. Ouais, alors, ouais. C'était vraiment une AG positive.
Tout type de mouvement confondu, moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu autant de monde à la Bourse du Travail dans la salle moissonnier. Donc
ouais, c'est vrai, et autant d'ambiance d'ailleurs.
Ça augure plutôt d'un mouvement vigoureux, dirais-je.
Alors, vous avez quelles décisions ont été prises à cette assemblée générale ? Est-ce qu'il y a des appels particuliers pour cette semaine, en prenant en compte aujourd'hui, bien sûr ?
En fait, là, on essaye aussi surtout de réussir à mobiliser les profs avec nous, parce que c'est vrai que ça devient vraiment difficile d'avancer sans le soutien des administrations, des lycées et des professeurs. Notamment, par exemple, le lycée Lumière, je ne peux pas trop en parler, mais je sais que les profs ont fait un appel à la fermeture et que le rectorat ne veut quand même pas fermer le lycée.
Parce que fermer le lycée Lumière, qui a eu les vitres donc détruites, le lycée Lumière, c'est un lycée, la porte d'entrée, c'est des baies vitrées, elles ont été détruites dans la semaine, genre vraiment, et du coup, maintenant, c'est une plaque de bois, mais pour autant, le lycée n'a pas été fermé, parce que ce serait, le rectorat refuse de fermer le lycée, parce que ce serait donner raison à notre manifestation. Du coup, le rectorat, c'est pas négociable, c'est vraiment
c'est une ferme noceur. Mais c'est surtout que les profs devraient se mobiliser et se mettre en grève pour soutenir les lycéens, parce que ça leur les concerne aussi.
À ce sujet-là, il y a eu donc l'intersyndicale du secondaire, alors pas tous, hein, on va pas, la CFDT évidemment pas, mais CNT, FO, CGT, Solidaires, qui ont appelé donc à une grève vendredi. Et a priori, il y aurait une nouvelle journée de mobilisation nationale ce jeudi.
Ouais. Oui.
Voilà, et en tout cas pour le Rhône, et j'espère que ce sera le cas dans d'autres villes, cette partie de l'intersyndicale appelle les enseignants à faire grève. Donc, amis enseignants, enfin les potentiels grévistes en tout cas, faites grève, venez soutenir les lycéens parce qu'ils en ont bien besoin. Donc, pour cette semaine, on est d'accord, dans un certain nombre d'établissements, la perspective, c'est tentative de blocage à nouveau.
Oui, oui, dans la continuité.
Et puis, jeudi, ça envoie tout. En tout cas, on l'espère, un peu comme vendredi de la semaine dernière, où il y a eu une grosse manifestation. Donc, est-ce que vous savez déjà ou pas du tout les horaires un peu qui sont prévus pour jeudi, ou c'est encore en discussion entre vous ?
Il y a quelque chose de prévu, du coup, ce serait à 10h30, le départ sera à Jean Massé.
Ok.
Après, je ne sais pas du tout si on va dériver encore sur la place de la Bourse ou si on va plutôt aller au rectorat. Ou
pour l'instant, je pense que ça va dépendre.
Mais en même temps, ça devient compliqué d'organiser un trajet. Bah, pareil, sans de soutien des professeurs, en fait, parce que là, ça devient vraiment difficile d'être que des mineurs dans la rue. Parce que, déjà, on est en manif sauvage, en fait, quasiment toute la semaine. Et on se fait vraiment marcher dessus par les CRS qui n'écoutent vraiment pas nos droits. Et la plupart des gens qui sont avec nous ne connaissent pas nos droits. On essaie de faire de la prévention dessus, mais ça devient vraiment compliqué d'avancer que entre mineurs dans la rue.
Et si on part en manif sauvage, on devient sujet à toutes les répressions policières violentes qui nous sont déjà arrivées cette semaine.
Et ouais, donc on invite tous les auditeurs et auditrices à venir jeudi, s'ils le peuvent,
à 10h30,
manif lycéenne.
À Jean Massé.
Et on rappelle d'ailleurs pour les auditeurs et auditrices lycéennes ou non, qu'à Lyon, il existe une caisse de solidarité qui permet de faire face à la répression, notamment en trouvant des avocats, mais aussi en organisant un peu le soutien financier, parce que souvent, la répression se suit d'amendes, au moins, et de frais de justice. Et le numéro, c'est le 06 43 08 50 32. Je répète, le 06 43 08 50 32. On sait que les lycéens souvent sont un peu désarmés face à la justice et à la police. Et du coup, vous pouvez vous tourner vers cette caisse de solidarité qui est là exactement pour ce genre de cas.
Merci à vous trois d'être venus.
On vous souhaite une belle mobilisation cette semaine.
Merci.
Voilà, et puis on se retrouve dans la rue ces jours-ci, avec plaisir.
Et quant à nous, on va faire le traditionnel agenda, puisqu'il nous reste exactement 2 minutes. Alors, demain soir, à 18h, au Jusqu'ici, c'est au 169 Grande Rue de la Guillotière, l'association Table Rase propose une conférence animée par le collectif Robin Goodfellow, et c'est donc une conférence sur le protectionnisme et le libre-échange.
Demain soir aussi, si vous ne voulez pas aller voir cette conférence, vous pouvez aller à la réunion de l'auto-école buissonnière.
D'ailleurs, moi,
mercredi. C'est pas demain soir, c'est mercredi. Ouais, je viens de voir qu'un tout petit la date. Mercredi, du coup, vous pouvez faire ça et vous pouvez aussi aller à la conférence au Jusqu'ici. Et sinon, vous pouvez aller mercredi rencontrer l'auto-école buissonnière, qui est donc un groupe de gens qui vous propose de passer le permis sans passer par une auto-école, en fait. Jeudi.
Eh bien jeudi, oui, tout à fait jeudi, il y a le collectif Jamais Sans Toi qui nous organise un goûter solidaire à l'école Jean Zé de 16h à 18h. Donc le collectif Jamais Sans Toi qui notamment occupe des écoles pour les élèves et les familles qui sont à la rue de ces écoles. Donc.
Jeudi, toujours à l'Amicale du Futur, à partir de 18h, le groupe Soins organise une séance autour des brûlures. Le groupe Soins, c'est un groupe de personnes qui essayent de s'organiser sur la question de se soigner en dehors des circuits traditionnels, on va dire.
Et je dis toujours, cette fois je ne me trompe pas,